C'est l'émission du Fictionnaire, avec en direct, par téléphone, Emanuele Coccia pour parler de son dernier livre qui s'appelle Métamorphose. Merci beaucoup d'être au téléphone avec nous. Je crois que vous êtes à Milan actuellement.
Exactement. Bonjour Dominique, je suis à Milan, tout en bas de la forêt verticale de Stefano Boeri.
Ah, mais ça doit être un endroit absolument merveilleux et qui, je pense, doit être très approprié pour parler de votre nouveau livre Métamorphose, qui commence par ce premier chapitre, la continuité de la vie. Et dès ce premier chapitre, on y trouve des phrases fort étonnantes, dont celle-ci que je vais lire. Le fait d'avoir des yeux, des oreilles, des poumons, un nez, du sang chaud, nous le partageons avec des milliers d'autres individus, avec des milliers d'autres espèces. Et dans toutes ces formes, nous ne sommes que partiellement humains. Et vous continuez ainsi, et c'est cette phrase que je vais vous demander de commenter. Chaque espèce est la métamorphose de toutes celles qui l'ont précédée.
Donc oui, c'est l'une des thèses du livre en fait. Le livre part de l'analyse de la métamorphose telle qui se donne à voir tout d'abord chez les insectes. Donc le phénomène qu'on a tous et toutes observé lorsqu'on était enfant et lorsqu'on a découvert que un cocon et les lieux de passage entre la chenille et les papillons. Et ce qui se donne à voir dans les métamorphoses des insectes, c'est que malgré cette différence de forme, de ethos, de forme de vie et de monde, car chenilles et papillons ont une silhouette différente, ont des mœurs différentes. La chenille ne fait que manger, le papillon est une machine sexuelle, et de mondes différents, car chenilles et papillons habitent dans deux mondes incompatibles et différents. Et d'ailleurs, c'est apparemment pour cela que les insectes traversent, une grande partie des insectes traversent ce phénomène. Je disais, malgré cette discontinuité, il y a une continuité. Au fond, chenilles et papillons sont les mêmes mois dans ces deux mondes différents, deux corps différents, deux états différents s'articulent à même et seul moi. La thèse du livre, c'est que cette même relation des continuités se tale non seulement parmi tous les individus de la même espèce, mais aussi parmi toutes les espèces qui sont et c'est de ce point de vue ce que déjà Darwin avait souligné avec sa théorie de l'évolution. Ce que la théorie de l'évolution nous dit, c'est que toute espèce n'est rien d'autre qu'une petite modification d'une espèce qui l'a précédée et donc se pose en continuité avec l'espèce qui l'a précédée. Au fond, toute espèce héberge en elle, couve en elle une vie qui a été différente avant de devenir telle qu'elle est. Donc notre vie, par exemple, d'un point de vue déjà génétique, héberge tous les restes des étapes qu'on a dû traverser avant de devenir humain. Et ces morceaux, ces stades qu'on a traversés et que sont, comment dire, au fond, les éléments qui nous permettent de bâtir notre identité sont visibles même d'un point de vue morphologique. En fait, il suffit de se regarder dans un miroir pour s'apercevoir que, par exemple, on partage les yeux avec des milliers d'autres espèces, on partage les oreilles avec des milliers d'autres espèces, on partage les nez avec des milliers d'autres espèces. Donc, on fait déjà une vie qui est à peine humaine. On fait déjà l'expérience au fond d'une biodiversité intérieure sans même se rapporter avec d'autres êtres vivants. Et de ce point de vue, toute espèce est une espèce de papillon, une chenille qui l'a précédée. Et nous sommes aussi la chenille d'une espèce qui va se déployer. Nous sommes les cocons d'une espèce qui va nous remplacer ou qui va se développer à partir de notre corps.
Et alors, votre livre Métamorphose, Emanuele Coccia, on peut le lire comme une sorte de manuel ou de grand livre sur les transformations, les possibilités de la transformation. Mais par contre, vous nous mettez en garde. Et c'est cette mise en garde sur laquelle je voudrais vous écouter. Vous écrivez: nous clamons un amour sans faille pour la transformation du monde, pour son progrès et son amélioration, mais tout changement réel nous terrifie. Puis vous continuez ainsi. Nous avons horreur de perdre ce à quoi nous tenons. Nous avons transformé le monde jusqu'à la moelle et pourtant ce changement nous paralyse. Nous nous refusons à l'accompagner par un changement de nous-mêmes. Et voici la phrase importante, essentielle. Nous sommes habitués à penser la transformation et le changement en suivant deux modèles, la conversion et la révolution. Et là, vous écrivez cette phrase magique, la métamorphose n'est ni l'une ni l'autre. C'est-à-dire, si on vous suit bien, que la métamorphose n'est ni la conversion ni la révolution. Pouvez-vous nous expliquer ?
Oui, donc l'idée c'est que si on regarde surtout d'un point de vue politique ou moral, les modèles qui nous accompagnent lorsqu'on décide de transformer nous-mêmes les mondes, on a ces deux modèles, la conversion d'un côté et la révolution de l'autre. La conversion c'est au fond la transformation du soi face à un monde qui doit rester au fond inchangé, car c'est important qu'élément puisse ne pas changer pour qu'elle puisse témoigner du changement qui a eu lieu du côté du sujet. Et c'est un changement radical, profond. Il y a un très très beau mot qu'on trouve dans des écrits du christianisme des origines qui dit en fait que toute conversion peut se résumer dans cette phrase, dans cette espèce de cogito ego non sum ego, c'est-à-dire je n'y suis plus ce que j'étais. Donc il y a même dans la conversion une espèce de reste du passé qui doit rester pour qu'on puisse être s'apercevoir du changement qui a eu lieu. Mais dans la conversion, toute conversion est aussi une contemplation de la maîtrise et de la toute puissance du sujet. Pour qu'il y ait de la conversion, il faut qu'il y ait un sujet tout puissant qui puisse élaguer soi-même enfin, d'une certaine manière. Se priver d'une partie qu'il ne veut plus ou qu'elle ne veut plus et engendrer à lui-même quelque chose qui n'est pas en continuité avec les passés. Là, la révolution, c'est les processus inversés. Au fond, la révolution est le changement du monde, mais qui doit, au fond, contempler toujours une permanence, une identité du sujet qui change le monde. Et là aussi, c'est pour ça que les deux modèles, à mon avis, sont pas très intéressant, parce que dans les cas de la révolution, ce qu'on contemple, c'est surtout la toute-puissance du sujet. Au fond, toute révolution est la volonté de réduire l'ensemble du monde, de la réalité, à une volonté singulière, à un projet, à une idée, en fait. Il me semble que la métamorphose est tout d'abord un changement qui transforme simultanément les sujets et les mondes, et surtout, c'est un changement qui n'est pas réconduisable à une espèce de volonté souveraine et à une forme de toute-puissance du sujet sur soi-même ou sur les mondes.
Nous voici prévenus pour qualifier au mieux le terme de métamorphose. Vous en venez, juste après ce chapitre, à celui sur les insectes, parce que naturellement, enfin je veux dire naturellement, je retire mon terme, généralement on pense aux insectes qui seraient vraiment les êtres de la métamorphose. Et vous employez à leur propos, vous employez ces deux expressions nouvelles qui sont absolument magnifiques pour les qualifier. Vous parlez à leur propos, donc au propos des insectes, de dandysme anatomique. Et vous les qualifiez aussi qu'ils ont une imagination somatique. Pouvez-vous nous parler du dandysme anatomique et de l'imagination somatique des insectes ?
Alors l'idée c'était de se pencher sur ce phénomène dont j'ai parlé, dont tous et toutes on a fait l'expérience, c'est-à-dire les changements qui intéressent surtout ce qu'on appelle en entomologie les insectes holométaboles, c'est-à-dire au fond les papillons, c'est-à-dire les insectes qui subissent un changement radical, non seulement dans leur dimension, dans leur taille, mais surtout dans leur forme. Voilà, si vous regardez le cycle de vie d'un papillon, il traverse, il est tout d'abord un œuf, ensuite une chenille, et ensuite qui s'agrandit, etc., et ensuite un papillon. Ce qui est intéressant, c'est que, au fond, ce changement morphologique correspond à une espèce d'usine interne, c'est-à-dire au fond c'est l'animal lui-même qui détruit une partie de son propre corps et qui reconstruit son propre corps différemment. Et c'est comme si, au fond, l'insecte était obligé à se coudre des nouveaux vêtements régulièrement à travers sa propre chair. Et je parle de vêtements parce que, en effet, la cause réelle, la cause de ce phénomène de métamorphose est l'effet que la peau des insectes est en fait rigide, c'est ce qu'on appelle un exosquelette, et c'est à cause de cette peau rigide qui ressemble à la coque d'une voiture que à chaque fois qu'ils grandissent, les insectes doivent se libérer de cette peau qui correspond à les vertébrés, c'est la squelette, et à reconstruire une autre. Donc, au fond, cette liberté morphologique lui offert par l'effet que ils doivent à chaque fois se reconstruire ce qui leur donne la forme, la solidité et la structure.
Et vous écrivez aussi quelque chose qui m'a assez surpris, mais qui est en même temps une évidence, c'est qu'ils sont les maîtres de la métamorphose, mais que cela n'a pas toujours été le cas. Ils ne sont pas nés avec ce talent, écrivez-vous, ils ont su se le fabriquer au fil du temps.
Et oui, en fait, ce qui est intéressant d'un point de vue d'évolution, les insectes ont développé cette capacité qui n'était pas innée, comme rien dans la vie d'ailleurs. Et d'ailleurs, la thèse dit, c'est que ce qu'on voit tellement bien dans la métamorphose de l'insecte, les insectes, c'est quelque chose qu'on peut contempler dans la naissance, dans la totalité des individus vivants, dans l'alimentation, dans l'évolution. Donc, au fond, je banalise ce phénomène qui nous paraît absolument exceptionnel. Mais l'autre aspect ou l'autre nuance de ce que vous venez de dire est dans l'effet que, au fond, qu'est-ce que c'est la métamorphose? C'est l'effet qu'une même vie, un même soi, peut héberger des formes et des figures, des silhouettes et des formes de vie totalement incompatibles. Mais cette capacité, donc c'est un exercice d'identité du disparate. Mais ce qui est intéressant, ce qui se donne à voir dans les insectes, c'est que cet exercice d'identité des formes les plus différentes et disparates est quelque chose de fabriqué. C'est-à-dire, au fond, ce qui se donne à voir dans les cocons, c'est que l'insecte doit produire l'identité entre chenille et papillon. Et que cette identité, c'est quelque chose d'artificiel, si vous voulez, de produit, de voulu, d'une certaine manière. Dans les livres aussi, j'avance l'idée qu'il faudrait regarder les cocons comme les paradigmes de tout objet technique. Et une chose qui est très très beau, qui est très très belle, en fait, c'est que dans les derniers siècles, la recherche entomologique a toujours envisagé dans les cocons une espèce de œuf postnatal. C'est comme si, au fond, la vie d'un insecte, c'était une vie d'un individu qui sort d'un œuf et qui, à un moment, reconstruit lui-même un œuf pour changer de forme, changer de vie. C'est comme si nous-mêmes, nous étions capables, à un moment de notre vie, de construire, au fond, un utérus pour nous donner la possibilité d'échanger à nouveau, en fait, de changer de forme, de changer de vie, de subir une métamorphose.
Et alors, vous en venez après, dans votre livre, et ça m'a très étonné, mais en même temps, ayant lu « La vie des plantes, une métaphysique du mélange », je m'y attendais à trouver aussi cela. Vous parlez de la métamorphose des plantes. Et vous nous exprimez là des notions, des idées auxquelles on n'est vraiment pas habitué pour rapprocher les plantes de votre concept de métamorphose.
Et oui, en fait, le thème de la métamorphose de plantes est quelque chose qui a hanté la culture européenne depuis toujours. Il suffit de penser, de songer au célèbre texte de Goethe qui s'appelle justement « La métamorphose de plantes », mais qui reprenne qui reprend des réflexions que la science biologique et botanique de son époque avait déjà développées de manière très radicale. L'idée fondamentale qui se développe dans les textes de Goethe et surtout aussi dans les textes dont Goethe s'est inspiré, c'est que il y aurait une différence fondamentale entre plante et animal. Au fond, l'animal, c'est un être dont les développements se fait graduellement d'une manière que ce n'est jamais irréversible, alors que la plante est un être toujours totipuissante, qui est capable, c'est-à-dire qui garde en elle-même la capacité de devenir n'importe quoi à n'importe quel moment, et qui est capable, au fond, de produire toute forme à partir de n'importe quel morceau de son corps. En fait, plus tard, on a découvert que cette étrange capacité métamorphique des plantes est liée à ce qu'on appelle les tissus méristématiques, c'est-à-dire ces tissus, ces cellules totipuissantes qui correspondraient à ce que dans les aliments sont les cellules de souche, qui permet par exemple effectivement si vous regardez un arbre, en fait à la pointe des arbres, de devenir, selon les opportunités et les conditions, un morceau une feuille ou une fleur, en fait. Donc voilà l'idée selon laquelle la plante serait un être beaucoup plus métamorphique que les animaux.
Et alors, à partir de cette nouvelle conception qui est propre à nous dérouter, et c'est là où vous êtes un philosophe qui nous force à l'hétérodoxie, qui nous force à la pensée, parce qu'avec cette nouvelle conception, vous en arrivez à une phrase fort étonnante, qui est celle-ci: la métamorphose est la frontière qui sépare et divise les espèces les unes les autres. Cela signifie que la relation que nous avons avec les différentes formes de vie est toujours métamorphique.
Et oui, en fait, la thèse, si vous voulez, si je devais résumer la thèse du livre dans une seule phrase, serait que ce phénomène nous donne à voir, comme j'ai dit, est beaucoup plus universel que l'on imagine, c'est le fait que tous les vivants partagent une seule et même vie. En fait, dans quel sens se font une des formes les plus triviales de la métamorphose est la naissance. Qu'est-ce que c'est la naissance? C'est exactement ce lien des continuités entre deux formes qui nous paraissent disparates. Au fond, c'est à cause de la naissance, ou à cause de la naissance, moi je suis la même chair, les mêmes souffles, la même vie de ma mère et de mon père, en fait. À cause de la naissance, pour vivre, je suis obligé à voler la vie de mes parents, la chair de mes parents, et en faire autre chose. Au fond, naître, c'est l'effet que je dois répéter une deuxième fois une vie, celle de mes parents, qui a dû déjà exister, qui a déjà fait ses pas. Et de l'autre point de vue, au fond, la capacité de donner naissance à quelqu'un, ce que les femmes font quotidiennement, c'est cette capacité de rajeunir son propre corps, de revenir au jour zéro et de donner l'autonomie à cette partie rajeunie de son propre corps et de l'obliger à revivre, en fait, d'une certaine manière. Et ce même rapport de continuité qui relie, par exemple, tous les individus de la même espèce entre eux, c'est le même rapport qui relie toutes les espèces vivantes. Ce qui veut dire, au fond, que entre moi, une chaîne, un éléphant et un lion, il n'y a pas de différence substantielle. On vit la même vie. Et il y a une autre manière de s'apercevoir de ça. À cause de la naissance, si vous voulez, la vie qui coule dans mes veines, la vie que mon corps héberge, est beaucoup plus ancienne que mon corps, car c'est la même vie de ma mère et la même vie de mon père. Mais comme à leur tour, la vie de ma mère et de mon père héberge la vie de mes grands-parents, de leurs parents, donc ma vie est encore plus ancienne que mes parents. Et d'une certaine manière, il n'y a pas de solution des continuités jusqu'à la naissance de l'espèce humaine. Donc ma vie est ancienne ou à l'âge de l'espèce humaine, de la comparaison au fond de l'espèce humaine sur Terre. Et comme, au fond, encore une fois, Darwin nous a démontré qu'il n'y a pas de solution de continuité entre les espèces, donc toutes les espèces s'engendrent les unes les autres, au fond, chacun de nos corps héberge à lui-même une vie qui a le même âge que la vie sur Terre, en fait. Donc, nous sommes des êtres à la fois tout nouveaux et extrêmement anciens, en fait, parce que chacun de nous, voilà, n'est que là, le prolongement de cette vie qui a commencé à souffler, premier instant où un être vivant a fait son apparition sur Terre.
Emmanuel,
voilà, au fond, la thèse du livre. C'est vraiment, il n'y a pas de continuité substantielle entre tous les êtres vivants, et c'est à cause de cela que, voilà, une conscience écologique doit s'installer. S'il faut respecter les autres vivants, c'est pas parce que, voilà, il faut respecter, je sais pas quoi, les autres, c'est parce que on est tous la même vie, et tous et toutes, et donc, c'est évident que il faut pas tuer les choses dont on n'a pas besoin de les tuer. Il faut respecter cette vie, il faut la laisser vivre, à moins de, dans des cas exceptionnels, évidemment.
C'est bien, Emmanuel Coccia, que votre livre qui s'appelle Métamorphose aurait pu être sous-titré « Une théorie de la continuité » ?
Tout à fait, oui. C'est une théorie, au fond, qui a été... comment dire ? Il y a toute une ligne dans la réflexion à la fois biologique et philosophique occidentale, mais pas que, qui a essayé d'exprimer cette chose-là. Parfois, on a parlé de théorie de la continuité, parfois, on a parlé de panthéisme, mais l'idée, c'est que, voilà, c'est que on partage beaucoup plus de ce qu'on imagine avec tout ce qui nous entoure, en fait. Et une autre partie, un autre chapitre de la vie, du livre, en plus, se répond sur le fait que cette même continuité n'existe pas juste entre les individus de la même espèce, n'existe pas juste entre toutes les espèces, mais cette même continuité est ce qui définit les rapports entre les vivants et l'environnement, c'est-à-dire la planète. Et que donc, d'une certaine manière, nous sommes aussi, d'un point de vue matériel, cette même planète. Nous ne sommes pas face à Gaïa, nous sommes Gaïa. Au fond, Gaïa est ce que chacun de nous essaye de, au fond, d'articuler, de laisser vivre, ou si vous voulez, dans chacun de nos corps, peu importe que nous sommes des humains, des éléphants, ou des lions, ou des écureuils, Gaïa essaye de s'inventer, de se coudre un nouveau corps. Au fond, d'une certaine manière, les vrais dandys anatomiques, les vrais dandys biologiques, c'est Gaïa qui ne cesse d'inventer des nouveaux visages, des nouveaux masques pour elle-même.
Merci beaucoup Emmanuel Coccia pour cette très belle réflexion conclusive. Nous parlions de métamorphose. Merci à vous.
Merci Dominique, merci à vous.